au Pays des Monstres avec Léopold Chauveau et Claude Ponty.
Être et savoir, Louise Touret.
Quand et pourquoi les monstres sont-ils devenus des figures centrales de la littérature enfantine ? C'est une question que nous allons nous poser aujourd'hui, car vous l'avez peut-être vous aussi remarqué, les albums jeunesse sont littéralement emplis de monstres. Alors ce ne sont pas du tout les mêmes que dans la vie, ceux-là, on les reconnaît au premier coup d'œil et ils ne sont d'ailleurs pas systématiquement méchants. Mais en fait, les enfants et les artistes ne partagent-ils pas des affinités avec ces créatures protéiformes, hybrides et surtout délicieusement affreuses ? L'exposition que le musée d'Orsay a choisi de consacrer à l'artiste Léopold Chauveau nous offre une occasion de réfléchir à cela en contemplant les monstres sculptés et dessinés par celui qui fut d'abord médecin, puis écrivain, un artiste qui illustra aussi l'Ancien Testament et les fables de La Fontaine. La scénographie est pensée pour les enfants et les adultes, à voir ensemble et séparément, et un hommage est aussi rendu à d'autres créateurs de monstres bien connus des plus petits, Maurice Sendak, Tommy Ungerer, Roland Topor et Claude Ponty, qui sera avec nous dans cette émission et qui publie spécialement pour l'exposition un album hommage à Léopold Chauveau, édité par l'École des Loisirs. Et ce qui tombe très bien, c'est que même si nous avons enregistré cette émission au mois de mars, l'exposition, elle, est prolongée jusqu'au 13 septembre. Être et savoir est préparé en collaboration avec Avril Ventura. Ce numéro a été réalisé en deux temps par Philippe Baudouin et Anne-Laure Chanel. Sofiane Aktib, Élise Leu et Audrey Guélil ont assuré la prise de son. Et pour notre dernière leçon de choses de l'année, c'est l'écrivaine Julie Wolkenstein qui sera au micro de Sophie Bobert. Ophélie Ferlier-Bois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-commissaire avec Leïla Jarboy de l'exposition Au Pays des Monstres, consacrée donc à Léopold Chauveau. Vous êtes conservatrice au musée d'Orsay à Paris. Et c'est la première fois que ce musée décide d'offrir un espace d'exposition plus spécialement dédié à la famille et aux enfants.
Oui, je dois dire que c'est une exposition un petit peu pilote pour le musée d'Orsay, pas pour les musées en général, parce qu'on sait que l'offre muséale s'est pas mal élargie à destination des enfants. Mais c'est vrai que pour l'instant, jusqu'ici, au musée d'Orsay, on se focalisait sur un public, on va dire, plus familial de manière générale, en offrant des compagnons de visite adaptés. Là, on change de focale complètement et vraiment, on invite, on accroche à hauteur d'enfant, on invite les enfants à manipuler faire des petits jeux, manipuler des objets, et on essaye vraiment de le rendre acteur de l'exposition.
Ouais, c'est toujours un plaisir, on espère assez proche, hein, d'aller voir des expositions en famille avec les enfants. Sophie van der Linden, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique littéraire, spécialiste de la littérature jeunesse et de Claude Ponty.
Tout à fait.
Donc vous connaissez bien ces monstres, on va pouvoir en parler avec vous et avec lui. Avec nous également un spécialiste des monstres, Stéphane Audguy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancier et essayiste, vous êtes auteur notamment des monstres. Ça a été publié en 2013 chez Gallimard. C'est un beau livre. Il y a aussi un Découverte Gallimard consacré aux monstres. Et puis, vous êtes l'auteur d'une belle préface, celle de Léopold Chauveau, Paysages monstrueux, publiée aux éditions RMN Musée d'Orsay. Une très belle préface, je le disais, pour un spécialiste des monstres qui s'est intéressé aux monstres dans l'histoire de l'art. Et Claude Ponty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et illustrateur jeunesse. Vous venez de publier un livre tout spécialement, je le disais, pour cette exposition, Voyage au Pays des Monstres. C'est une forme d'hommage. Alors, à Léopold Chauveau, mais pas seulement. Vous avez glissé plein de monstres, de plein de créateurs de monstres. Vous formez une espèce de confrérie avec eux, avec Topor, avec Chauveau.
On peut dire ça comme ça. Disons que je me sens plutôt du même village qu'eux. Que je me mets pas au niveau des gens que vous avez cités, mais c'est vrai que j'ai voulu mettre beaucoup d'ouverture dans le livre pour montrer aux enfants et aux lecteurs qu'il n'y a pas que Chauveau, qu'on peut aller un peu partout, que Chauveau est exemplaire dans sa capacité à ouvrir des mondes et qu'il y en a beaucoup d'autres. En même temps, je voudrais dire bonjour à tous les gens qui sont là, en particulier mesdames d'Orsay. C'est elles qui m'ont sollicité pour faire ce livre.
Et vous n'avez pas fait que ce livre, parce qu'il y a aussi une série de podcasts qui sont proposés. Vous avez écrit plusieurs histoires, des histoires lues par des acteurs et actrices, dont Ariane Ascaride et Bérénice Bejo. Je ne vais pas vous demander pourquoi vous avez écrit ces histoires, mais je vais demander à Ophélie Ferlier-Bois pourquoi vous avez voulu aussi proposer ces voyages sonores aux enfants.
Alors l'idée, c'était que finalement, sur ces monstres, donc ce sont des monstres sculptés par Léopold Chauveau, finalement, on connaît pas grand-chose. Pour certains, on connaît leurs noms, mais finalement, pour très peu d'entre eux, seulement 8, on a des listes de noms de monstres de sa main, mais on fait pas forcément le lien avec les monstres sculptés qui sont parvenus jusqu'à nous. Ils ont des noms assez marrants, d'ailleurs. Ils s'appellent Gamuche, Marfou, voilà, très fantasque. Et l'idée, c'était justement de raconter leur histoire par les yeux de Claude Ponty, et voilà, de comment plastiquement peut-être cela pouvait lui évoquer une histoire, un personnage à proprement parler, parce qu'on sait que Chauveau lui-même donnait vraiment la vie à ces monstres et avait une relation tout à fait particulière avec eux. Dans de nombreux textes, il raconte comment, quand la porte de l'atelier se ferme et que le sculpteur rentre au milieu de ces monstres, tout d'un coup il s'anime, et si quelqu'un d'autre entre, il se fige à nouveau. Donc vraiment, il y a ce côté vivant. Roger Martin Dugard, qui est un ami proche de Chauveau, dit que justement il aimait raconter des histoires à propos de ces monstres. Donc l'idée, c'était de réinventer cela par le regard de Claude Ponty.
Et je voudrais revenir à cette idée de la place du monstre dans la littérature jeunesse, dans l'imaginaire enfantin. Peut-être, c'est mon idée, est-ce parce qu'il est très plastique, ce monstre, qu'il permet de se projeter consciemment et inconsciemment aussi, et des monstres qui, du côté des créateurs aussi, permettent une grande liberté, peuvent être des supports de créativité, créativité dans le dessin, dans la forme, dans la description, dans les noms aussi qu'on leur donne. Stéphane Audguy.
Oui, alors je pense que le fait qu'il y ait des noms à ces monstres et qu'en même temps les noms ne soient pas attribués fait du monstre une espèce de puissance muette. Et le monstre ne parle pas, et les monstres de Chauveau, je crois, ne parlent pas. C'est-à-dire qu'il faut les parler. Il faut donc, il y a un support comme ça de récit. Et ce que disait tout à l'heure Claude Ponty à l'égard de l'espace est intéressant aussi, parce que non seulement il y a monstre, mais il y a monstre avec un paysage, comme la fameuse série des paysages monstrueux. Et là, c'est comme si chaque monstre était un monde, une puissance. Et quand vous dites que dans l'atelier de Chauveau, il pensait que les monstres redevenaient inertes quand quelqu'un entrait, c'est dans une relation assez intime avec le monstre que chacun peut ouvrir un espace. Comme quelqu'un qui penserait que les pierres s'ouvrent quand on les regarde pas ou si on les regarde bien. Ben, les monstres, c'est un peu la même chose. Et comme l'enfant, par ailleurs, est aussi celui qui ne parle pas étymologiquement, enfin, c'est l'enfance, il y a quelque chose là, il se reconnaît dans une créature qui, comme lui, doit s'adapter, enfin, doit parvenir à exister dans cet espace très particulier. C'est pourquoi Chauveau est particulièrement émouvant, je trouve. Il a ce sens du rapport de l'espace et du monstre qui est assez fascinant.
Il faut absolument voir ces dessins, on peut les voir dans le catalogue, dans l'ouvrage Paysages monstrueux. Ce dessin, il est extrêmement moderne pour son époque, il est extrêmement de son époque aussi, avec une forme de naïveté qui est une redécouverte pour le dessinateur du dessin d'enfant. Il se libère avec à la fois sa maîtrise de celui qui a appris à dessiner de manière très normée et qui, tout à coup, voilà, casse les codes. Ophélie Ferlier-Bois.
Oui, on a beaucoup de choses dans le dessin de Léopold Chauveau. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a cette simplicité, je trouve, plus que de naïveté, une efficacité de la forme aussi, qui s'explique par ses traits tracés à l'encre de Chine. Alors déjà dans La Maison des Monstres, qui est la première série de monstres dessinés de Léopold Chauveau, mais qu'on va retrouver aussi dans Les Paysages monstrueux, puisque tous les monstres et tous les éléments de paysage sont cernés de ce trait à l'encre de Chine et à l'intérieur duquel on a des aplats de couleurs. Donc on a une simplicité, et comme vous l'avez dit, c'est une époque à laquelle on apprenait le dessin d'une manière extrêmement normée et en quelque sorte, comme de nombreux d'ailleurs artistes contemporains, il s'échappe de cette norme par une forme de liberté. Et il faut aussi avoir à l'esprit que cette efficacité plastique, elle est due chez lui très souvent, car il a à l'esprit la publication de ses dessins, l'édition. et les éditions de littérature jeunesse contemporaine de Chauveau, édites dans des reproductions pas toujours de très bonne qualité.
Alors,
souvent
on
très
peut rappeler les époques, parce qu'on est dans les années...
Alors, il commence à dessiner 30. Des monstres en 1910, mais il commence à publier des recueils de littérature enfantine en 1923. Donc on est vraiment dans l'entre-deux-guerres, qui est l'âge d'or... justement de l'album Jeunesse.
On va attendre le micro à Sophie van der Linden sur l'évolution de l'album Jeunesse et l'apparition des monstres dans ces histoires pour les enfants.
Le début du XXe siècle est une période qui n'est pas tellement commentée finalement dans l'histoire de la littérature pour la jeunesse. Souvent, on passe très vite sur cette période, alors qu'elle est effectivement extrêmement intéressante parce que c'est aussi tout le rapprochement de nouvelles conceptions pédagogiques avec le domaine artistique et le domaine de l'enfance. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande date pour nous dans l'histoire de l'album, c'est 1931, parce qu'on a d'un côté l'invention du personnage de Babar par Jean de Brunhoff, qui est vraiment là une narration texte et image articulée. On entre véritablement dans l'album moderne. Et puis de l'autre côté, la même année, la création de la collection des albums du Père Castor. Là aussi, des ouvrages extrêmement inventifs et surtout peut-être les premiers ouvrages qui, par à la fois leur matérialité mais aussi leur contenu, s'adressent vraiment aux enfants, sont lus par les enfants.
Et puis, il y a aussi des grands auteurs qui décident de s'adresser aux enfants, comme Kipling, qui dessine aussi.
Oui, on a d'abord, la littérature enfantine, elle a d'abord fait appel à ces grands écrivains pour se tourner vers le public enfantin dès le développement de la littérature enfantine à la fin du 19e siècle. On a effectivement tous ces grands écrivains qui vont s'adresser aux enfants avec ou pas le support des illustrations. Quant aux monstres, eh bien, moi je constate qu'ils sont moins présents peut-être, moins rapidement, moins évidents que toutes sortes d'autres... Alors, tout dépend, on n'a pas encore défini les monstres et on va peut-être pas avoir très envie de les définir, mais enfin en tout cas si on s'en tient aux monstres...
Je veux des créatures... imaginaire, voilà. Qui ne soit pas anthropomorphe. Je sais pas, Claude Ponty, qu'est-ce que dites-moi en tant que, après tout, vous en dessinez. Donc, pour vous, un monstre dessiné, c'est quoi? Si vous avez une définition à proposer.
Définition, non. Moi, j'ai plusieurs formes de monstres. J'ai des monstres réceptacles. C'est-à-dire que, par exemple, il va juste servir à montrer comment, par exemple, un enfant peut être monstrueusement emporté par sa colère et pas savoir trop comment faire avec. Bon, ça c'est un type classique de monstre. Moi j'ai beaucoup plus de monstres qui sont des obstacles. Dans le développement de l'histoire qui est parallèle au développement et à la construction de l'enfant lui-même, du lecteur et du récit, il y a quelque chose qui bloque et qui empêche, et ce qui m'intéresse c'est de montrer que on peut y arriver, on peut s'en sortir, donc c'est mieux d'affronter quelque chose de monstrueux qui est polymorphe, qui est capable de choses, de pensées cachées et d'actes évidents. Ils me servent comme ça, ils sont très utiles, ils sont extrêmement différents pour moi des monstres de Chauveau, ce qui a été dit tout à l'heure, je suis d'accord complètement, les monstres de Chauveau sont éminemment silencieux. C'est déjà très fort de réussir à faire en dessin des personnages dont, à l'évidence, ils sont silencieux. Mais les monstres de Chauveau sont des entités intérieures qui sortent de lui, dont il favorise la sortie parce que il a aussi une vie intérieure tellement difficile avec les choses tellement horribles qu'il a eu à vivre, qu'il a besoin quasiment d'exsuder des monstruosités tous les jours. Et ce qui est fascinant, c'est que ces monstres, comme il a été dit, sont pas méchants, sont pas agressifs. Ils sont à la fois bons et silencieux et calmes et ils aident à l'équilibre.
Je n'arrive pas à dessiner les gens ou les choses que je déteste. Il faut toujours que j'y trouve un petit peu d'amour, disons. Et alors, pour pouvoir dessiner, il faut que je sois dans la situation, à l'endroit, que je perçoive le paysage ou les décors autour, et que je sois vraiment à la place du monstre. Donc, je peux pas le détester complètement parce que je suis dedans.
des monstres exutoires aussi. Alors, vous y faites référence, Claude Ponty, c'est raconté dans l'exposition. Le destin de Léopold Chauveau est assez dramatique parce que il va travailler pendant des guerres, être témoin d'actes atroces. Il va perdre deux enfants, un à la suite d'une opération chirurgicale et l'autre par noyade. Il va parler de ça dans ses œuvres et récits. Et même consacré une série de livres à un de ses fils décédés. Mais revenons aux monstres et à leur présence plus ou moins bienveillante dans la littérature jeunesse. Est-ce que le livre de Maurice Sendak, Max et les Maxi-monstres, publié en 1963, je crois, est un tournant, Sophie van der Linden?
C'est en tout cas l'œuvre marquante. Mais c'est vrai qu'on a eu très tôt beaucoup d'ogres, de loups, de sorcières, etc., qui sont quelque part des monstres, mais qui, pour moi, sont surtout des figures qui viennent des contes et qui passent dans la littérature enfantine par ce biais. Le monstre, il a une origine plus lointaine, à mon avis. Il vient beaucoup plus des mythes. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a finalement une littérature enfantine qui va progressivement adresser les contes aux enfants et donc faire intervenir ces personnages identifiés des contes. Et puis qu'on va voir une autre voie qui arrive. Alors, on pense aussi quand même à Little Nemo et au travail de Winsor McCay, qui est quand même admiré par tout ce monde-là. Claude Ponty, il me semble aussi. Mais c'est vrai que Sendak... Alors, Max et les Maxi-monstres, c'est la traduction française. Il n'y a pas Maxi-monstres. Le titre original, c'est Where the White Things Are, qui est beaucoup plus mystérieux, qui peut-être est plus suggestif. Donc, ces choses sauvages, c'est un impensé. Les monstres de Sendak, ils ont des caractéristiques animales, mais enfin, je veux dire, ils sortent de nulle part, ils sont totalement créés par Sendak. C'est Wild Thing, c'est l'inconnu, c'est l'inquiétant, c'est le menaçant, mais c'est aussi l'attirant. Et les monstres sont toujours une forme d'ambivalence. Donc, on a un héros qui est déguisé en loup, lui, qui est en colère, qui est un enfant terrible. Parce qu'il y a aussi ce
lien. Un petit monstre.
Et voilà, ça c'est un vrai courant aussi dans la littérature pour la jeunesse, les enfants terribles, parce que les petits monstres. On a Marceline le monstre, on a des exemples de monstres qui sont en fait le reflet d'un enfant impertinent, insolent, etc. Et là, Max se rend au pays des Maxi-monstres, d'abord parce qu'il a été traité de monstre par sa mère quand il lui a répondu, et il va se mêler à eux, jusqu'à l'excès, dans cette fête, muette d'ailleurs, sur trois doubles pages, une mise en page extrêmement novatrice. Et puis il va s'en extraire pour les dominer. Mais ce qui me semble intéressant, et peut-être ce qui rassemble, et bien sûr Claude Ponty nous donnera son avis peut-être, c'est que finalement, pour moi, Sendak, puis dans la même période Tommy Ungerer et ensuite Claude Ponty qui nous met un petit Maxi-monstre dans son livre, dans son voyage au pays des monstres, c'est aussi une capacité à plonger dans l'intériorité des enfants, à s'adresser véritablement aux enfants et non plus à une image fantasmée des enfants qui passent par le prisme éducatif. Ce qui est très fort dans Max et les Maxi-monstres, c'est qu'on s'adresse véritablement à l'enfant. Et ce qui, à mon sens, rejoint et rassemble Sendak, Ungerer et Claude Ponty, mais aussi dans le cinéma, parce que c'est la dimension visuelle, Hayao Miyazaki, c'est que ce sont des artistes qui s'adressent véritablement aux enfants.
Je ne sais pas si Totoro, mon voisin Totoro, c'est un monstre ou pas, c'est une créature imaginaire, mais puisque vous parlez de Miyazaki, évidemment, je pense à Totoro. Sur ces créatures et leurs caractéristiques, est-ce que ces monstres dessinés pour les enfants, je parle de ceux de Chauveau, peut-être ceux de Ponty, tous ceux qu'on a cités, est-ce qu'ils ont des caractéristiques des monstres de la peinture telle qu'on les connaît dans le Jardin des Délices de Bosch, chez Bruegel, ou même... les gargouilles, il y a des familiarités. Est-ce que vous les lisez, Stéphane Audguy, ces
Alors sur le dessin au trait,
les racines monstrueuses.
Les dessins au trait, je dirais non. Il y a des gargouilles évidemment, et dans l'exposition Chauveau, de façon très amusante et séduisante, on les a placés justement sur des positions éminentes, de façon à ce qu'on les voit comme des gargouilles.
Donc on parle des sculptures.
On parle des sculptures. La sculpture, oui. Le dessin, je dirais que c'est autre chose. Alors ça, je trouve ça intéressant effectivement qu'on le sépare de la question éducative. Vers la question initiatique, peut-être, qui n'est pas du tout la même chose. Et si même on étendait le propos, alors il faudrait se demander si dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas aussi cette grande mythologie, bien sûr, grande mythologie non éducative, mais éminemment initiatique. Là, il y a une mutation, enfin, et il y a aussi la reconnaissance de l'enfant comme personne, enfin, comme personne avec une problématique particulière. Chauveau a ce sens-là de l'enfant, parce qu'il est aussi, d'une certaine manière, non pas puéril, mais il a cultivé l'enfant en lui. Et il a une formule qu'on a tous citée, évidemment, à propos des monstres. J'expectore les monstres. Il y a une toux. Alors, c'est intéressant, parce que, pour un médecin, dire j'expectore les monstres, parce qu'en même temps, c'est le symptôme d'une maladie, mais en même temps, c'est aussi la façon de se purifier, de sortir.
C'est médical, psychanalytique et poétique.
Oui, oui, c'est ça.
La même formulation.
Oui. Et c'est une médecine à la première personne. Il est le premier soigné dans cette affaire et Dieu sait s'il a eu besoin de se soigner. Parce que, évidemment, à l'époque qu'il vit, cette espèce de meurtre de masse qui est la Première Guerre mondiale, etc. Enfin, il a survécu littéralement comme ça. Et c'est extrêmement émouvant, je trouve.
Ophélie Ferlier-Bouët, c'est pour ça qu'on parle de pays des monstres. On s'offre toujours un voyage dans un pays où les mots n'ont pas la même place, où les représentations sont déplacées. C'est ce qu'on doit accepter de faire ensemble quand on va voir votre exposition. Dont, d'ailleurs, la scénographie invite aussi au voyage. On n'est plus vraiment au musée d'Orsay. Voilà, tout est fait un peu différemment.
Oui, l'idée, c'était vraiment de plonger tout de suite dans l'univers de Léopold Chauveau. Effectivement, on a habillé les deux colonnes du buffet de la gare d'Orsay, qui sont très présentes architecturalement, d'arbres en style un peu pop-up, qui sont tirés, qui sont une invention du scénographe Martin Michel, mais tirés d'un dessin monstrueux de Léopold Chauveau. Et je reviens sur ce que disait Stéphane Audguy. Pour Chauveau, le monstre, c'est lui. C'est sa manière à lui, il a une valeur thérapeutique, il a une valeur aussi de création automatique. On sent bien que le monstre naît malgré lui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour lui, les monstres ne sont pas à destination des enfants, pas particulièrement. Lui, ça l'aide à survivre en quelque sorte, et cela très tôt, dès 1905, donc bien avant la Première Guerre, bien avant les drames personnels qu'il a à vivre. On sent que le monstre, c'est d'abord un remède contre son spleen, comme il le dit, son mal-être, parce qu'il exerce une profession de médecin qu'il abhorre, il déteste les corps malades. Dans la maladie, il voit déjà la mort. Et pour lui, au contraire, le monstre a cette force vitale qui lui permet de survivre.
Au-delà de lui, c'est le monstre et qui est en nous. Je voudrais vous faire écouter un des extraits d'une histoire écrite pour ces podcasts liés à l'exposition. Donc une histoire écrite par Claude Ponty.
Les gens qui nous regardent en dessin ou en sculpture ne pensent pas forcément qu'on est gentil, attentionné, préoccupé du bien-être, de la protection de celles et ceux que nous habitons. Nous sommes des gardiens du bonheur d'être. Peut-être que si, après tout. Peut-être que des gens nous regardent avec plaisir, comme les enfants nous regardent, en voyant à l'intérieur de nous qui sommes à l'intérieur d'une personne. Peut-être se demandent-ils si nous souffrons, si nous avons faim ou soif. Eh bien, quand la personne que nous habitons va mal, nous n'avons ni faim ni soif. Nous avons froid. Et nous faisons ce qu'il faut pour que la chaleur du bien-être revienne. Elle n'est jamais loin.
Un extrait de Léopold Nu, monstre de compagnie, interprété par Arthur Teboul. Claude Ponty, je ne vais pas vous demander une explication de texte. Cette histoire est extrêmement émouvante. C'est la plus émouvante de toutes. C'est pour ça que je l'ai choisie. Le monstre, ce n'est pas seulement nous. C'est quelqu'un qui est à l'intérieur de nous, c'est une force qui nous habite. Qu'est-ce que c'est?
vous le dites très bien, mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette histoire, c'est pas exactement une histoire, c'est à la fois un aveu et une autobiographie, parce que le monstre qui parle, en l'occurrence, là, c'est Chauveau lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est sculpté, là. le monde le reconnaît. Enfin, dès qu'on a vu des photos de lui, on le reconnaît. Donc, ça devient doublement double de regarder, de pénétrer, d'essayer d'entendre ce monstre-là. J'aurais tendance à dire que c'était inévitable de le raconter comme ça. En tout cas, moi je ne pouvais pas faire autrement.
Je rebondis sur ce qu'a dit Sophie van der Linden tout à l'heure. Quand on met des monstres dans la littérature jeunesse, on n'est plus dans le livre para-éducatif, on n'est plus même dans l'histoire que les parents racontent aux enfants. On est dans l'adresse directe d'un artiste à des lecteurs qui peuvent être de jeunes lecteur, c'est ce que j'ai toujours ressenti en vous lisant, Claude Ponty, en vous lisant à des enfants, vous leur parlez directement, vos monstres aussi, ils communiquent directement, et parfois c'est pas doux, hein, c'est pas forcément gentil hein, chez vous, hein, Claude Ponty, les monstres.
Non,
mais c'est une communication directe, et est-ce que c'est comme ça que vous le voyez vous aussi?
Je le vois pas parce que je me regarde pas faire, mais la seule réponse que je peux donner, c'est que je sais pas faire autrement. C'est-à-dire, dès que j'essaye autrement, j'y arrive pas. Ça reste un mystère pour moi, pourquoi je suis de plein pied avec les enfants comme ça. Bah, pas tous, hein, évidemment. Mais je vois pas d'autre façon de faire, mais ça me fait penser à ce qui a été dit sur Max et les Maximons. Effectivement, le titre anglais est bien meilleur. Et il se fait traiter de monstre, ce petit garçon. Ça me rappelle très bien ma mère. Nous, on se faisait traiter de sauvage. Donc le titre de Max et les Maximons en anglais est sauvage parce que on n'était pas éduqué, on n'était pas apprivoisé, comme ce crétin de renard le demande dans Le Petit Prince. Max et les Maximons, c'est la sublimation d'une punition. Cet enfant est débordé par lui-même, il est mal compris, il est puni, et à l'intérieur de la punition, il arrive à fréquenter, à apprivoiser et à jouer avec ses propres monstres. C'est vraiment un livre extraordinaire. C'est un chevaux et extraordinaire aussi parce que il y a une littérature enfantine à l'époque, mais elle est morale et religieuse. La fin du 19e siècle est épouvantable en livre pour enfants. Et Chauveau est capable de démolir tout ça en construisant autre chose, et quelque chose de puissant, de fort et de respectueux envers les enfants. On parlait tout à l'heure des enfants qu'il a perdus, mais le petit Renaud qu'il y a dans ses livres, avec lequel il dialogue, il invente des histoires. Ce qu'il dit dans sa biographie, enfin dans ce qu'on peut savoir de lui, c'est que avec ses petits-enfants et ses enfants, il était capable de raconter des histoires en les modifiant au fur et à mesure que les enfants trouvaient qu'il fallait faire plus comme ci ou comme ça. Et il le re-raconte dans son livre. Et en fait, le petit Renaud est une synthèse de ses petits-enfants et de ses propres enfants, y compris les enfants disparus. Et donc là, on est dans une autre forme de monstre qui est plutôt la chimère, c'est-à-dire que avec tout ça, avec tous ses enfants et avec lui-même, il est capable de fabriquer cette vision de l'enfant. Je dois rendre un petit hommage aux dames d'Orsay parce que je ne connaissais pas Chauveau. Et c'est une découverte les plus merveilleuses qu'on m'ait permis de faire.
Et on découvre encore une fois, avec un auteur jeunesse, la figure de l'auteur qui raconte à son propre enfant une histoire. C'est ce que faisait Tolkien, on en a parlé dans l'émission consacrée à Tolkien. C'est ce que vous faites aussi dans vos albums, avec parfois des mises en abîme avec Adèle, Claude Ponty. Mais je vais m'arrêter aussi sur comment vous dessinez les monstres et les enfants avec les monstres, parce que vos héros ou vos héroïnes, parfois, ils se battent avec les monstres. Il y a de vrais combats, plus ou moins violents, parfois amusants, parfois pas du tout. Je pense à l'album Mon Amour. Et là, il s'agit bien de combattre la vraie brutalité, la vraie méchanceté et le caractère horrible du monde.
Oui, cette petite héroïne, elle passe par la compréhension de la situation, qui est assez long pour elle, et puis elle passe par l'intelligence. Il y a des batailles contre des monstres qui peuvent se résoudre que effectivement par une réaction violente. violente ou parfois la colère est bénéfique. La colère peut être une arme de défense, mais il y a des fois aussi où on se sert de la subtilité ou à manipulateur et demi. Oui, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de dire que les enfants peuvent.
Comme je pense au Portillard, tu la vis. Est-ce que c'est aussi un plaisir de les nommer, ces monstres, Claude Ponty?
Je pense que c'est la réponse est oui. C'est un vrai plaisir de trouver le nom qui leur va bien.
Et il y a une autre histoire que vous avez inventée au sujet d'un monstre sculpté par Léopold Chauveau. C'est Bec de Calme, et vous dites c'est le monstre qui nous aide à être dur et méchant et qu'il faut parfois réveiller.
Ah oui, c'est ce que je disais à propos de la colère. Il y a des fois où effectivement il faut se servir de sa dureté ou même de sa méchanceté, mais la différence c'est que là on en est conscient et on la dose. La méchanceté peut être une énergie face à quelque chose de très très difficile à résoudre et surtout d'agressif. Donc à ce moment-là, c'est très bien d'être un petit peu méchant.
Une autre dimension est abordée dans l'exposition, elle intéressera peut-être les enfants, mais elle m'a beaucoup intéressée en tant qu'adulte, c'est l'engagement de Léopold Chauveau, un homme qui était très politique, qui avait des idées très modernes pour son temps, qui était engagé jusqu'à même être engagé pour la cause des animaux, être végétarien, il était aussi antimilitariste, antifasciste aussi, et ça c'est important aussi dans son œuvre destinée à la jeunesse, Ophélie Ferlier-Bois.
Oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est très intéressant parce que c'est un intellectuel de gauche, pourrait-on dire, qui fréquente tout le milieu des Descartes, de Pontigny, de Paul Desjardins, qui est ami avec Gide. Alors lui n'adhère jamais au Parti communiste parce qu'il a cette forme d'indépendance qu'il caractérise. Il garde toujours cette distance et d'ailleurs il critique vivement Gide après son voyage en URSS. Et c'est quelqu'un qui lisait toujours plusieurs journaux pour avoir différents points de vue. Enfin, il a toujours cette distance sur le monde. Et très tôt, effectivement, il s'inquiète de la montée de Mussolini et d'ailleurs dans une de ses histoires illustrées qui assez étonnamment n'est pas faite du tout pour les enfants même si elle en a tous les codes par ailleurs c'est l'histoire justement d'un despote qui se fait renverser en fait sa fille l'a traitée de vieille ganache alors il décide de la tuer par tous les supplices possibles et à chaque fois les bourreaux ont pitié d'elle donc ne la tue pas finalement elle épouse le bouffon du royaume et quand le bouffon monte sur le trône tout rentre dans l'ordre parce qu'il supprime l'administration et il renverse la hiérarchie militaire. On a véritablement quasi un anarchisme qui sauve le royaume et conduit vers la paix. Et on retrouve aussi des éléments politiques, effectivement, dans ces histoires pour enfants. Le vieux crocodile est une sorte d'allégorie du mal en soi et il termine aussi adulé par une peuplade après avoir mangé son arrière-petit-fils et mangé son ami la pieuvre qui pourtant était bien gentil avec lui. Et dans les cures merveilleuses du docteur Popotame, c'est là que tout son côté anticolonialisme est vraiment évident, manifeste. Ce docteur hippopotame qui soigne les animaux, qui se rend compte que les hommes blancs sont moins bons que les hommes noirs et décide d'inventer une couleur, le noir popotame, dans lequel, quand les hommes blancs tombent, ils deviennent instantanément bons, noirs, et perdent aussi toute pudeur.
Parce que Chauveau est aussi un antiraciste, et là c'est beaucoup d'avance sur son époque.
Alors après, il utilise les termes de son époque, hein, il utilise le mot de nègre, évidemment, mais c'est vrai qu'il considère que les hommes sont égaux entre eux, et ce qui ne va absolument pas de soi, effectivement, à cette époque-là.
Pour frissonner même en été, j'aime le sang qui coule le soir au fond des bois. J'aime entendre les cris des victimes que l'on noie. Mais attention, quel est ce bruit? Un volet claque, mes dents aussi. Si vous voulez faire mon bonheur, arrangez-vous pour que j'aie peur. Quand j'apprenais en classe l'histoire des rois de France, c'était vers ce bon loin. adversaires rivaux en cage. Si vous voulez faire mon bonheur, mon seul plaisir c'est d'avoir peur. Et quand parfois je rêve à mon prince charmant, il n'aura pas besoin d'être beau, d'être grand. Qu'il soit anglais et chanteur, je resterai dans le domaine de l'horreur. Et comme cette histoire doit finir, salut, je vais retrouver mon vampire. Ça fait plus d'une heure qu'il m'attend, il doit se faire du mauvais sang.
Si vous connaissez quelque chose de pire qu'un vampire, une chanson de Stella, une chanteuse belge. La chanson date de 1967. C'est une rareté dénichée par Philippe Bodouin, évidemment. Et c'est sur ce plaisir d'avoir peur qui peut faire aussi partie du plaisir de fréquenter les monstres, du moins dans la littérature jeunesse. Ce plaisir, est-ce que les lecteurs en parlent et comment on l'exploite? Sophie van der Linden, vous qui êtes critique littéraire spécialiste de la littérature jeunesse.
C'est vrai qu'il y a un lien très fort entre le monstre et la peur, et cette peur dans la littérature enfantine, elle est très corrélée à la notion de plaisir. Il y a une relation ductile entre la peur et le plaisir. Donc le monstre sert à la fois à incarner cette peur, mais aussi à frissonner d'aise des représentations. Et puis bon, l'enjeu dans beaucoup de ces livres, c'est aussi de dompter le monstre, dompter son monstre notamment. Il y a un livre assez emblématique, c'est « Il y a un cauchemar dans mon placard » de Mercer Meyer. Ce qui est intéressant avec le monstre, c'est que c'est purement l'incarnation de l'imaginaire enfantin aussi. C'est-à-dire le monstre, c'est vraiment une projection enfantine complètement singulière. Donc le monstre du placard, c'est le monstre qu'on imagine parce qu'on a peur. Et dans Il y a un cauchemar dans mon placard, bon, c'est l'affrontement avec le pistolet à bouchon, et finalement, tout d'un coup, le monstre devient gentil. Donc il y a ça aussi, il y a cette dialectique qu'on retrouve assez souvent entre le monstre effrayant et le monstre gentil, donc dompté. Alors avec une tendance, y compris aujourd'hui, dans une littérature un peu plus... dans des productions, on va dire, peut-être... plus commercial, mais tout est commercial, mais enfin bon, à incarner uniquement des monstres gentils, c'est-à-dire de d'être...
Monstres et compagnie, par
oui,
exemple.
Oui, voilà, alors bon, là, c'est assez intéressant, mais c'est vrai qu'on on commence à avoir des monstres qui sont là comme monstres, mais qui sont déjà domptés, donc c'est beaucoup moins intéressant, parce qu'ils sont beaucoup plus monolithiques.
Mais alors, on perd le plaisir d'être rassuré.
Voilà, c'est ça, on perd beaucoup de choses.
Et sur cette notion de plaisir, Stéphane Audguy, le plaisir d'avoir peur, celui de se faire rassurer, puis peut-être de garder un petit peu de peur quand même.
Oui, et alors évidemment, on songe que ce sont souvent des histoires bedtime stories, c'est-à-dire des histoires qu'on raconte dans l'espace intermédiaire entre la veille et le sommeil. Et donc ça accompagne bien le moment où on va affronter ses propres monstres, éventuellement sous la forme du rêve ou du cauchemar. C'est pour ça que je trouve merveilleuse la formule de Claude Ponty tout à l'heure, que les monstres sont les gardiens du bonheur d'être, puisqu'effectivement, le gardien du sommeil, c'est le rêve, et dans les rêves, il y a aussi ce plaisir et cette ambiguïté d'aller affronter les choses sauvages qui sont au fond, quoi, qui sont aussi l'inconscient. Et pas maxi-monstre, effectivement, non, mais la chose sauvage, l'innommable, l'informe, etc. Et dans Chauveau, il y a ça aussi, il y a cette... même le paysage, même une colline peut être un monstre. Il y a quelque chose à l'horizon même des choses qui est inquiétante et que les enfants savent que certains adultes oublient ou croient oublier. Et effectivement, le récit, c'est vraiment l'espace transitionnel où je peux affronter ma peur. Et c'est ça qui en fait tout le prix, évidemment. Quant à Monstres et Compagnie, hein, clairement, c'est raconte ou essayer de raconter la transition entre une économie du monstre qui est une économie de la peur, disons une économie à la Disney, vers une économie pixarienne qui est une économie du plaisir. Puisqu'à la fin du film, finalement, on met en boîte du rire plutôt que de la peur comme faisait l'ancien système. Alors peut-être que les monstres du 21e siècle, si on avait si on voulait les analyser, peut-être serait de ce côté-là aussi, enfin, une espèce d'adjuvant à la créature, un peu comme chez Miyazaki parfois, Chihiro, des choses comme ça, où par le shintoïsme, en fait, Miyazaki fait revenir tout un fond folklorique, entre guillemets, et qui vient à l'aide des enfants, et ça c'est très important. Quant à Chauveau, ce qui m'avait frappé moi en lisant ces textes, c'est que il dit papa par exemple. Chauveau est un papa, ce n'est pas un pater familias. Et pourtant c'est un homme qui est né en 1870, il est né au sommet du patriarcat occidental, et en fait il invente une nouvelle forme de paternité, et donc ça répond à votre première question peut-être. C'est peut-être ça sa modernité, c'est que c'est un papa qui parle à ses enfants, et pas un pater familias. Il est passé d'ailleurs du côté du monstre, parce que peut-être que le père est le premier monstre, du côté des enfants. Et ça, c'est formidable.
Mais Claude Ponty, ça doit beaucoup vous toucher d'entendre ça, parce que vous aussi, j'ai l'impression, vous êtes un papa, parce qu'il y a des enfants qui sont vos enfants, une en particulier, dans vos ouvrages, Adèle. Il me semble que c'est cette position que vous pourriez partager avec Chauveau, mais dites-moi si je me trompe, celle du père qui n'est pas un pater familias, qui n'est pas un père patriarcal.
Tout ça est très bien dit. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que je ne me reconnais pas dans ces paternités-là. Même, je crois que j'ai une forme de haine envers ces paternités-là. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi dans ce qui vient d'être dit là, c'est que effectivement, les parents peuvent être vus de temps en temps, parfois ou longtemps, comme des monstres. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont toutes les colères, ils ont toutes les capacités de détruire, de faire mal, de dire mal. Et le monstre aussi peut servir à ça, aussi à supporter les parents qu'on a.
concernant les monstres qui sont directement gentils, comme on a cité Monstres et Compagnie, Pixar, voilà ces histoires où d'entrée on a un monstre ultra sympathique qui a certes des caractères physiques du monstre, mais qui n'en a absolument pas l'âme, ni le mystère, ni les paradoxes, ni le côté dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Comme ça, a priori, je trouve ça complètement inutile et dénaturé. Et à deuxième priori, je trouve ça rigolo. C'est effectivement, on s'amuse avec ça, mais je pense qu'on n'est juste pas dans la même étagère de la bibliothèque.
Des monstres inoffensifs pour se distraire et des monstres plus complexes pour réfléchir. C'est vrai que vous parliez d'œuvres plus commerciales, Ophélie Ferlier-Bois. Quand même, pour revenir à ma question initiale, comment expliquer que tout au long du XXe siècle, ces monstres se soient à tel point multipliés dans les publications jeunesse, dans les livres proposés aux enfants aujourd'hui? On est loin de l'époque de Léopold Chauveau, on est loin du moment où Claude Ponty a commencé à proposer des ouvrages pour la jeunesse. Est-ce que vous avez, vous, une forme d'explication?
Alors, je fais pas ce constat forcément. Je trouve que c'est le loup qui a vraiment pris une place incroyable, et justement en mutant et en passant des étapes à partir du personnage repoussoir et qui sert d'avertissement.
On pense à Grégoire Solotareff à l'école des loisirs, on pense à Mario Ramos dans les interprétations contemporaines.
Et puis Philippe Corentin qui fait ce loup extraordinaire parce qu'il est encore un tout petit peu inquiétant et un tout petit peu menaçant, mais il est surtout très maladroit et très caricatural. Quant au monstre, je pense que ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre de la singularité, même s'il y a effectivement quelques développements avec des personnages monstres. Ce qui est intéressant aussi, et là je trouve que ça rejoint l'esthétique japonaise, le shintoïsme, mais aussi c'est toutes ces différents monstres, ce bestiaire des monstres qu'on retrouve dans les cartes Pokémon ou des choses comme ça, et qu'on retrouve nous dans la production enfantine de manière relativement récente, c'est avec tout le, tous les dicos des monstres, l'ABC, l'ABC de la trouille d'Albert Le Mans, il y a le qui est qui des monstres, etc., qui rejoint cette idée de catalogage. Alors, est-ce que ça vient d'Ambroise Paré carrément ou pas? Je ne sais rien. Mais en tout cas.
L'histoire de la médecine et.
Oui, puis je pense que dans les productions enfantines et pour les lecteurs enfantins, il y a effectivement ce plaisir de les manipuler, de les cataloguer, de les trier. Il y a maintenant ces manuels qui nous apprennent comment nous débarrasser des monstres. Et, bon, alors ça rejoint aussi, je pense, tous les documentaires sur les gnomes, etc. C'est-à-dire cette idée de mélanger l'approche documentaire et l'approche merveilleuse.
De très beaux livres qui expliquent d'où viennent les gnomes, comment même s'ils existaient déjà quand j'étais petite, leur taille et comment les rencontrer. On pense à l'exposition
Fantôme d'Asie au Quai Branly.
Exactement. Merci beaucoup, Ophélie Ferlier-Bois. Et d'ailleurs, il y a une référence au Japon avec des parallèles dans l'exposition avec effectivement des œuvres de dessinateurs japonais, mais la plus ancienne. Et puis cette formule, mais alors je ne me rappelle plus qui en est l'auteur. Léopold Chauveau, ce serait le chaînon manquant entre Bosch et les Pokémon.
Alors oui, c'est Bertrand de Zoteux, dont on présente deux aquarelles dans l'exposition, qui fait essentiellement des films d'animation dans des mondes un peu paranormaux, un peu psychédéliques aussi, et qui dit cette phrase assez juste en réalité, ce chaînon manquant entre Bosch et Pokémon, je trouve qu'il apporte vraiment aussi une autre dimension, une autre ouverture de Chauveau sur quelque chose de très contemporain, parce que je pense que si Chauveau plaît autant aussi aujourd'hui, et finalement l'attrait pour son œuvre, je pense, est assez récente. On aurait fait la même exposition il y a 15 ans, on n'aurait sans doute pas eu la même réception. C'est parce que on connaît très bien maintenant toute cette illustration japonaise. Et on connaît aussi beaucoup mieux le monde des yokai, donc de ces monstres japonais, qui eux aussi sont très vivants, qui se cachent parfois dans les objets. Ils sont toujours là, mais on les voit pas forcément. Et il y a des personnages types, donc il y en a qui sont très typés, très normés. Donc là, on est tout à fait dans le domaine de l'encyclopédie monstrueuse, on pourrait dire. Mais ils sont aussi un petit peu partout, et puis on les imagine comme on veut. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui aussi tout l'intérêt pour nous de Chauveau.
Chauveau, que j'espère on vous aura donné envie de découvrir aujourd'hui si vous ne le connaissez pas. Donc c'est une exposition proposée par le musée d'Orsay, une exposition pour les enfants et les parents qu'on peut voir en famille, mais qu'on peut tout aussi bien voir tout seul en tant qu'adulte. Les références des ouvrages cités dans l'émission, évidemment, à la page des Très Savoirs sur le site de France Culture. N'oubliez pas ce magnifique ouvrage, Voyage au pays des monstres, un hommage au créateur de monstres par Claude Ponty, et c'est publié à l'école des loisirs. Dans un instant, la leçon de choses de Sophie Paubert. Elle y a passé toutes ses vacances depuis l'âge de 4 ans et tous ses étés. Aujourd'hui, l'écrivaine Julie Wolkenstein nous raconte le lien très intime qui l'unit à sa maison de famille au bord de la mer. Et c'est au micro de Sophie Paubert.
C'est une villa normande, comme on en trouve en fait plutôt plus au nord, sur la côte, du côté de Deauville et tout ça, ces espèces de villas avec vaguement des petits clochetons, vous savez, des trucs un peu prétentieux de la fin du 19e. Ouais, c'est inouï parce que c'est vraiment ce privilège incroyable d'être sur la mer, en fait plus ou moins dans la mer, et plus ça va aller, plus on risque d'être submergé. Ça, c'est un danger qu'on voit malheureusement grandir, mais donc qui est une espèce d'observatoire, comme si on était sur un bateau sans être en mer. Donc c'est une espèce de, pour certains peut-être, de lieu un peu effrayant, genre le manoir hanté dans Psychose, vous voyez, cette espèce d'architecture plus ou moins victorienne. Mais bon, moi je l'ai toujours trouvé un charme. Elle est dans son jus, comme on dit, mais moi ça m'a toujours...
Oui, il y a un palimpseste de décoration dans cette maison.
Oui, alors maintenant moins, mais quand j'y suis entrée pour la première fois, je le raconte au début du livre, c'est un souvenir très très fort, je devais avoir 4 ans, et je me souviens de la montée de l'escalier dans les bras de ma mère, et le papier peint, enfin les papiers peints peint de l'escalier posé couche après couche depuis déjà presque 100 ans à l'époque, avaient tous été sans doute gondolés par l'humidité, à moitié moisis. Et donc, on voyait des couches et des couches par des espèces d'échancrures comme ça, de papier peint qui avait dû être posé dans les années 90, 1910, 1930. Et c'est un souvenir, je ne sais pas pourquoi, absolument, c'est peut-être des enfants que ça aurait terrifié. Moi, ça m'a envoûté. Enfin, il y avait comme une espèce, oui, de, comme vous dites, de palimpseste, enfin, d'histoire, hein, des habitants qui s'étaient comme ça imprimés sur les murs.
Agrégés les uns aux autres. Ouais. Mais les éléments décoratifs de cette maison dans laquelle vous avez passé toutes vos vacances depuis vos 5 ans agissent, opèrent un petit peu comme des symptômes. Hein.
Oui, alors c'est parce que c'est aussi. Alors, vous me demandez si j'y ai été heureuse, en fait. Je pense que c'est. Maintenant, c'est un bonheur parfois plus mélangé parce que c'est aussi le souvenir de maintenant plusieurs morts, le souvenir de mon père, le souvenir de mon frère qui est mort lui beaucoup plus précocement. Donc, c'est un bonheur plus contrasté. Mais c'est, je pense, l'endroit du monde où je suis le plus heureuse. C'est-à-dire, je vis tout là-bas avec plus d'intensité qu'ailleurs. Et donc, tous les souvenirs que j'y ai depuis l'enfance sont des souvenirs intenses. Je ne sais pas, c'est bonheur, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais.
Vous parlez de souvenirs. Intense, Julie Wolkenstein, c'est-à-dire que si on s'en réfère à ce qu'il peut y avoir de plus intense dans une vie, à savoir la mort, vous y recroisez le souvenir de votre père, de votre frère, précocement disparu, mais aussi il ressuscite.
Oui, c'est un lieu, ça c'est le grand privilège de ces maisons de famille qu'on arrive à se transmettre et à conserver d'une génération à l'autre, c'est qu'il y a une continuité et que cette continuité. Bien sûr, il y a des ruptures, il y a les morts, mais il y a quelque chose qui ressuscite. Et c'était le sentiment que j'avais en commençant le livre, c'était un sentiment d'absence, l'absence de mon frère d'abord. Mais c'est vrai que la mort de mon frère m'a beaucoup renvoyée à celle de mon père qui est survenue il y a plus longtemps. Mais bon, voilà, ça a ravivé des choses. Donc la maison, elle était désertée et il y avait quelque chose. Et je voulais qu'à la fin, elle se remplisse.
Qu'est-ce qu'elle vous a transmis, cette maison, Julie Wolkenstein ?
C'est comme si toutes mes sensations, mes perceptions, c'était d'abord construite là-bas et c'était enracinée. Alors c'est bizarre le terme d'enraciné, mais c'est ça que j'aime bien aussi avec cette maison, parce que c'est pas du tout un endroit où on peut s'enraciner. D'abord, rien ne pousse. C'est un sol complètement granitique, caillouteux. On n'a jamais réussi à faire pousser à peine un brin d'herbe hein, sur le terrain autour de la maison. Et puis elle est menacée par l'eau, donc c'est pas un lieu sûr. C'est pas voilà, il n'y a pas un côté comme ça. Rien ou
et pourtant
mais ça me va moi parce que moi je pense que de toute façon tout est précaire donc s'attacher à des choses précaires c'est comme s'attacher à des êtres voilà on prend en compte leur c'est pas la menace c'est la certitude de leur disparition
leur fragilité
donc voilà
mais cette maison ce n'était pas seulement une coquille ce n'était pas seulement un décor elle a agi comme une véritable actrice dans votre famille.
Oui, alors c'est vrai que j'en avais pas forcément, enfin en tout cas j'avais pas le sentiment que c'était communicable ou que je pouvais le partager, mais c'est ce que m'ont dit, alors surtout les gens qui la connaissent, les gens qui ont lu mon livre et qui la connaissent, mais c'est ce que m'ont dit très vite des lecteurs proches, ils m'ont dit cette maison est vivante, cette maison est un organisme vivant. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression, je lui parle souvent quand je suis, pas quand il y a des gens parce que je vais pas avoir l'air d'une folle, mais quand j'y suis seule, ça m'arrive de m'adresser à elle, et là c'était quand même un peu un challenge de la rendre vivante parce que la période où j'y étais pour écrire le livre, il n'y avait plus grand chose de vivant ni en moi, c'était une période où la mort prenait pas mal de place. Mais où oui, il y avait une forme de vie indépendante, c'est vrai.
Et Julie Wolkenstein vient de publier « Et toujours en été » chez POL.
C'était le dernier numéro d'Être et Savoir de cette saison bien secouée. On vous retrouve à la rentrée. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France Culture et une excellente écoute de notre très belle grille d'été qui commence demain matin.
Je me souviens.